Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Indescience Podcast. Aujourd'hui, nous rencontrons Rémi Louf. Rémi, bonjour.
Bonjour.
Tu es actuellement postdoc à l'University College à Londres.
Oui.
Et donc, tu travailles et tu as travaillé pendant ta thèse que tu as effectuée donc à l'Institut de physique théorique sous la direction de Marc Barthélémy sur la complexité des villes à travers le prisme de la physique statistique. Ton travail de thèse s'intitule donc « Théorie urbaine, une approche par la physique statistique ».
Alors, est-ce que tu pourrais déjà nous raconter un petit peu ton parcours ?
Alors, tout a commencé avec un bac S. La raison pour laquelle j'ai fait un bac S, c'est à peu près comme tout le monde, c'était par défaut. Je ne savais pas quoi faire, donc j'ai fait un bac S. Ensuite, je suis allé en classe préparatoire, je ne savais pas quoi faire. Et c'est vraiment en deuxième année où j'ai découvert la physique. J'ai pas beaucoup bossé l'année d'avant. Et ça a été, c'est difficile à expliquer, une révélation quelque part. Je me suis mis en tête que je ferais de la physique et je ferais que ça de ma vie. Donc j'ai fait une troisième année de prépa, parce que j'ai pas réussi les concours la première année. Je suis rentré à l'école normale de Cachan, à l'issue de ma prépa, où j'ai étudié la physique. J'ai adoré ça. Puis vient un moment où je me suis un peu lassé. Je sais pas pourquoi. Et j'ai décidé, comme ça, du jour au lendemain, d'aller faire un master de philo. Donc je suis parti en Angleterre pendant un an faire des philosophies des sciences. Et j'étais toujours en train de chercher ce que je voulais faire parce que j'avais encore un Master 2 de physique à faire. Et je me posais justement la question de savoir si j'allais faire ce Master 2. Un jour, par hasard, je me rends dans une des conférences qu'il y avait à l'université. Et un physicien est en train de parler, il parlait de mathématiques financières. Et ça m'avait vraiment intrigué. Je me suis dit, tiens, c'est une physique vraiment différente de celle que je connais. Et de fil en aiguille, je me suis mis à rechercher à droite, à gauche, et j'ai découvert qu'il existait des physiciens qui travaillaient sur des choses un peu non orthodoxes, je veux dire. Je suis revenu ensuite à Paris pour faire mon Master 2 dans un domaine qui est complètement orthodoxe, qui est la mécanique quantique. Et par hasard, en cherchant un stage, où encore une fois, j'avais du mal à choisir parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, je suis tombé sur un stage proposé par Marc.
Marc Barthélémy,
mon directeur de thèse. Donc, encore un peu par hasard, c'est tombé devant moi un jour et je me suis dit pourquoi pas. Et de là, tout s'est enchaîné. J'ai fait mon stage, ensuite j'ai fait ma thèse.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, et à nos auditeurs, qu'est-ce que la physique statistique ?
C'est une excellente question. Il y a deux types de physique statistique. La première, c'est celle qu'on apprend ici, en fac, qui est la physique statistique à l'équilibre, qui grosso modo, il y aura sûrement des gens pour me contredire, mais qui est l'étude de grands ensembles de particules de choses. Au-dessus de grands ensembles, des propriétés statistiques de grands ensembles. Il y a une deuxième catégorie qui est ce qu'on appelle la physique statistique hors équilibre, qui est une collection de petits modèles divers et variés, qui touchent au réseau, à la fragmentation des objets, etc. Et qui est vraiment difficile à définir. C'est le genre de choses où on n'arrive pas à le définir, mais quand on le voit, on sait ce que c'est, mais on n'arrive pas à le définir.
Et quel type de statistique a été utilisé pour...
On est plus dans la tradition de la physique statistique hors équilibre.
Alors justement, comment appliquer donc ces grands pans de la physique à l'étude des villes ? Quelles sont les grandes questions que vous avez posées dans votre travail ?
Bon, les villes sont des objets qui sont désordonnés. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver de l'ordre dans ce désordre. C'est vraiment essayer, comme en physique, de prendre le système et de chercher d'abord à y trouver des régularités. Une fois qu'on a trouvé ces régularités, ce qu'on essaie de faire, encore une fois comme en physique, c'est de les expliquer via des modèles mathématiques qui sont très simples. C'est-à-dire des modèles qui ont maximum un, voire deux paramètres quand vraiment on en met beaucoup. Et donc c'est vraiment ce qui vient vraiment de la physique, c'est d'abord cet aspect parcimonieux de l'étude, qui est de vraiment y aller à tâtons, de trouver des grandes régularités, d'abord dégager les grands traits, et ensuite construire des modèles qui, eux, sont inspirés de la physique, des modèles qui existent en physique. Statistiques en équilibre pour expliquer ces grands traits. Et ensuite, j'espère un jour rentrer plus dans les détails.
Alors, pardonne mon ignorance peut-être, dans ton travail, qu'est-ce que tu appelles une ville ? Comment est-ce que tu définis la ville ?
Alors, c'est une très bonne question. Je m'y suis heurté un peu dans la douleur au début de ma thèse. C'est-à-dire que je m'étais pas posé la question. D'ailleurs, j'imagine que les gens qui nous écoutent maintenant ne sont jamais posé nécessairement la question de ce qu'est une ville. Je me souviens avoir choisi pour une étude avoir pris une définition qui était complètement arbitraire, qui est la définition administrative. Et j'ai fait une présentation à un géographe qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que vous avez pris comme définition ?» Et j'ai eu un blanc. Et effectivement, c'est une question qui est pas évidente. Je sais que... Par exemple, ma thèse était à Saclay, donc tous les jours je prenais le RERB. Donc je ne sais pas si vous avez déjà pris le RERB pour aller dans le sud de Paris, mais ce que vous voyez au début, c'est des bâtiments qui sont de moins en moins hauts, puis il y a de moins en moins de bâtiments, puis plus de bâtiments du tout, et avant que vous en rendiez compte, vous êtes au milieu de la forêt. Et la question que je vous pose, c'est à partir de quel moment est-ce que vous avez quitté la ville ? Est-ce que c'est au moment où les bâtiments étaient moins élevés, ou quand il y en avait de moins en moins, ou quand vous êtes rentré dans la forêt ? Mais il se trouve que cette question n'est pas du tout évidente, et on est encore en train de travailler à la réponse.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la démarche de ton travail, et même si c'est compliqué d'avoir défini cette ville, comment tu as pu étudier toutes ces villes et quels sont les principaux résultats de ton étude ?
Alors, ce qu'on a fait, donc les premières choses qu'on a fait, c'est prendre un grand nombre de villes et regarder comment certaines caractéristiques comme la longueur des rues ou le temps total que vous passez dans les embouteillages évoluent avec la taille de cette ville. Ce qu'on a trouvé, c'est que le temps passé dans les embouteillages par personne lui augmente avec la taille de la ville, ce qui n'est pas complètement évident, et la longueur des rues par habitant diminue avec la taille de la ville, ce qui n'est pas non plus évident. Et ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on a réussi à faire, c'est trouver un modèle simple qui permet d'expliquer ces phénomènes. Une autre chose qu'on a fait qui est complètement différente, enfin ma thèse est un peu un mélange de choses un peu très différentes, et c'est qu'on a étudié la forme du réseau de rues. Un réseau de rues, quand vous regardez une carte, en fait, il découpe des formes. Et on s'est intéressé à la géométrie de ces formes. Et est-ce que finalement, les géométries à Paris étaient différentes de celles à Tokyo, à Mogadiscio, à Londres? Et on a essayé de calculer, si vous voulez, une distance, à quel point Paris est distante de New York. La forme de Paris est distante de celle de New York. Et une fois qu'on arrive à calculer une distance comme ça, on peut classifier ensuite les villes. Et on s'est amusé à trouver une classification comme ça, qui, même si elle est très, je dirais, simpliste, parce qu'elle prend pas en compte énormément de choses, arrive quand même à distinguer, à faire la distinction entre les villes d'Amérique du Nord et les villes européennes. Donc c'est une espèce d'éternel cliché sur la forme des villes. Par ça, il y a eu quelques travaux sur les réseaux de transport et aussi sur la ségrégation, des travaux qui sont plus récents.
Très bien. Et comment est-ce que tu penses que ce modèle-là, cette démarche, pourrait apporter des applications ? Comment est-ce que ta démarche pourrait servir à imaginer la ville de demain, éventuellement à repenser l'urbanisme tel qu'on le connaît ? Est-ce que déjà ce sera le cas ? Est-ce que c'est peut-être déjà le cas ?
Alors la ville de demain, je laisse ça aux auteurs de science-fiction. Concernant les applications des travaux qu'on effectue, la réponse honnête, c'est que je sais pas, et pour l'instant, ça m'intéresse pas beaucoup. On en est à un état du domaine où finalement on connaît très peu de choses, où les fondements sont pas très solides, et où il est encore tôt, je pense, pour penser aux applications. Ça va arriver, mais je pense qu'il faut continuer vraiment à travailler sur les fondamentaux avant d'y arriver un jour.
Mais est-ce qu'on pourrait y arriver grâce à une accumulation de données ? Enfin, quel est le facteur limitant ?
Je pense que les données aident dans le sens où elles nous aident à comprendre la ville telle qu'elle est maintenant. Si vous voulez, les données, c'est autant de points de vue différents sur la ville. Ce qui a changé la donne, en fait, ce qui fait que maintenant on peut espérer répondre aux questions qui ont été posées il y a très longtemps, c'est justement l'arrivée de ce qu'on appelle des nouvelles données et aussi la numérisation d'anciennes données. Donc c'est la convergence de ça avec la disponibilité d'outils informatiques qu'on n'avait pas avant. Et donc c'est vraiment grâce à ça qu'on arrive à répondre maintenant, on peut essayer en tout cas de répondre à des questions qui étaient très anciennes, parce que on n'est pas les premiers à avoir travaillé sur la ville. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus avant nous, qui ont posé toutes les questions qui ont été posées quasiment, mais très peu ont eu de réponse. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder l'histoire des disciplines et de se rendre compte, par exemple, si vous regardez en géographie, il y a un courant quantitativiste dans les années 60-70 qui est né. Et quand vous lisez des livres de l'époque, c'est incroyablement moderne. Vous lisez le livre, ça aurait pu être écrit aujourd'hui. C'est les questions qu'on se pose aujourd'hui, etc. La différence avec aujourd'hui, c'est qu'ils n'avaient pas de données et ils n'avaient pas les ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vraiment ce qui est en train de changer la donne.
Donc toi, tu as travaillé sur énormément de données, j'imagine. Elles venaient d'où, ces données ? C'était gouvernemental,
Énormément, oui, il y avait beaucoup de données. On n'en est pas au big data. C'est-à-dire que tout tient sur un disque dur chez moi. Et les données, mais les données, c'est des données publiques. Donc, c'est des données qui sont librement disponibles. Ces données qui sont principalement américaines, parce que les États-Unis ont fait un grand effort d'ouverture de leurs données. Tout est disponible sur un portail en ligne. Enfin, si vous voulez vous amuser à regarder tout et n'importe quoi à propos des États-Unis, vous pouvez aller sur ce site, c'est incroyable. Donc j'utilise principalement des données américaines. Ce qui était sur le réseau de rue, on a utilisé des données qui viennent d'OpenStreetMap, qui est un peu le Wikipédia des cartes, qui est un Google Maps qui est en open source et qui est modifié de façon collaborative.
On a bien compris que ton travail, c'était vraiment de la physique statistique appliquée à la problématique des villes. Mais j'imagine que cette problématique, la problématique des villes, elle s'intéresse à des notions de sociologie, des notions de géographie. Et alors comment ce travail s'insère dans le paysage scientifique ? Est-ce que tu as collaboré avec d'autres domaines de la science ?
Alors c'est un peu compliqué. Les relations, donc comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de disciplines qui sont intéressées aux villes avant nous, et même très longtemps avant nous. C'est un peu difficile d'arriver comme ça avec ses grands sabots et de rentrer dans le domaine en disant « on est physicien, on est là pour vous sauver ». On n'est pas là pour les sauver, on n'est pas là pour changer la donne, on n'est pas là pour tout réinventer, pour faire mieux, on est là pour apporter des méthodes qui sont différentes. C'est vrai que c'est un vrai défi d'essayer de construire un dialogue entre les disciplines. Ça, vous avez toujours... La première réunion est un désastre, la deuxième une catastrophe, la troisième tout le monde se crie dessus, et après on continue, et au bout d'un moment on arrive à dialoguer, à trouver un langage commun. C'est quelque chose qui prend du temps, qui prend beaucoup de modestie aussi. Je parle pour les physiciens. Difficile d'être modeste en étant physicien. Et on y arrive. Moi, par exemple, je suis en postdoc chez un géographe. Et en ce moment même, je suis dans une collaboration avec une sociologue. Moi, je pense que c'est à ce prix-là, c'est vraiment en faisant un effort d'interdisciplinarité qu'on va réussir à dire des choses qui sont intéressantes, finalement. Parce que les autres disciplines savent quelles questions sont intéressantes. Nous, on a des nouvelles méthodes et c'est vraiment en essayant de comprendre quelles sont les questions, qu'est-ce qui a déjà été apporté sur ces questions qu'on va réussir à faire quelque chose de constructif.
Oui, parce que ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que des théories sont développées, donc j'imagine par des géographes, par des urbanistes, ou même, même des modèles en physique. Et là, le but du jeu, entre guillemets, dis-moi si je me trompe, c'est aussi de vérifier ces modèles-là quand il y aura du recul suffisant et des données suffisantes pour les confirmer ou les infirmer.
Surtout les données, oui.
Merci beaucoup, Rémi, pour toutes ces explications. Donc, je rappelle que pour ce travail de thèse, tu as reçu un prix qui t'a été remis par le journal Le Monde, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
C'est un prix de thèse, c'est ça ?
C'est un prix de thèse, oui.
Ok, félicitations.
Merci.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite dans tes recherches, dans ta future carrière
de garder la passion.
Ouais.
Ouais. Parce que si la passion est là, le reste suit.
Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, on te remercie beaucoup. Je pense que ça va intéresser tous les auditeurs d'Indes Sciences. Et puis, on te dit à bientôt.
J'espère. À bientôt.
Merci beaucoup.